modèle dans les configurations qu'on devrait avoir dans notre thread de développement durable, il faut intégrer cette démarche. Alors maintenant, pour comprendre un petit peu l'innovation d'une représentation qui aujourd'hui parle d'acceptabilité. Je vais passer très vite là-dessus, mais je serais mal quand même prendre quand même peut-être 10 ou 20 secondes pour bien signaler pourquoi on a souhaité élargir cette configuration. D'une part, en tant qu'économiste, on était gêné par ces trois sphères qui nous gênaient parce qu'il fallait absolument que, lorsqu'on était consulté, qu'on fasse un diagnostic sur coût-bénéfice. Et moi, à chaque fois, j'expliquais qu'un économiste n'a pas pour vocation de faire que du coût-bénéfice. C'est pas un technicien. Il peut également se poser des questions sur la présentation. À quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce qui est pertinent ou non? Et puis, en même temps, on s'est aperçu que dans beaucoup de projets, le culturel jouait beaucoup. On est sur la francophonie, hein, donc quand vous arrivez en Algérie avec un projet d'audit sur une ville durable ou sur un réseau d'eau usagée, bah, vous devez tenir compte effectivement de l'impact culturel. Puis on a vu que la gouvernance jouait un rôle très important. Et donc on a cherché à travailler sur ces 4 à 5 dimensions. Pour nous, ce n'est pas des piliers, hein, c'est bien des dimensions, ça signifie qu'on y rentre comme on peut. Je dis bien comme on peut parce que ce n'est pas un consensus, c'est des fois du compromis. Hein. Travailler sur un projet, c'est du compromis à chaque fois. Et puis, ça mobilise, bien sûr, des actions de terrain. Alors, c'est pour ça que moi, je pars toujours de l'enjeu territorial, autrement dit, l'enjeu de société. On se rend compte que l'intérêt du développement durable, c'est que tout le monde peut en faire. Autrement dit, ça peut être le petit geste au quotidien, comme ça peut être le grand projet d'envergure qui va révolutionner un petit peu la vision qu'on a, ou de l'environnement, ou du social. Et que c'est à travers, notamment, ces enjeux de société qu'on peut être amené à comprendre, à contextualiser un problème qui, au départ, paraissait simple. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à comprendre des choses qui sont complexes. À mon sens, on est rentré dans la complexité, ce qui signifie qu'on est dans l'incertitude, dans beaucoup de cas. Et quand on fait du développement durable, quand on est sur un projet de développement durable, on est vraiment dans l'incertitude. Je trouve que la grande différence, c'est que pendant très longtemps, on faisait de l'environnement, il y avait des risques qu'on arrivait à probabiliser. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'incertitude, ce qui rend les projets extrêmement délicats à gérer. Et puis surtout, on doit travailler sur l'interdisciplinarité. Je pense que tout se fait un jour ou l'autre. C'est très complexe hein, de comprendre leur présentation. Je travaille avec des architectes, des sociologues, des philosophes. Et des fois, on n'a pas les mêmes représentations des choses. Et il faut qu'on ait une culture commune. Ça signifie que dès qu'on parle de développement durable, d'innovation, chacun a sa vision un petit peu. Et donc, il faut qu'on soit bien d'accord sur comment on travaille. J'évoquais cette dimension parce qu'en même temps, ça signifie que les principes, vous voyez, mes principes en jaune ont tendance aujourd'hui à prendre le pas sur l'aspect technique, sur l'expertise. Aujourd'hui, quand on fait de la gouvernance, la notion qui revient, c'est la participation. Comment on fait participer les gens dans un projet de développement durable? Moi, je viens de Clermont-Ferrand, je travaille sur un parc naturel régional. Et forcément, dans un parc naturel régional, il y a plein de questions qui se posent, d'urbanisation rurale, comment... Mettez-vous en avant la culture du pays, de la région, comment on fait un couloir écologique dans des villages qui sont normalement préservés en termes d'architecture. Et tout ça signifie que la grande question, ce n'est pas forcément les acteurs politiques, c'est de savoir comment on amène les gens, les habitants, à participer. Comment s'approprier le terme développement durable, et même quand on lance une innovation, comment faire accepter ce genre de choses. Ce qui fait qu'au bout du compte, il y a un ensemble de principes qui paraissent évidents. La responsabilité, aujourd'hui, elle est définie, hein, même juridiquement et pénalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la participation, la solidarité, sont également des principes qui rentrent en jeu, notamment sur la technologie. Pour ceux qui ont déjà travaillé en milieu rural, les nouvelles technologies sont un bon exemple. Hein, comment aujourd'hui éviter qu'il n'y ait pas une séparation entre la ville et la campagne. Donc ceci pour dire que c'est complexe et en même temps, les échelles de temps et d'espace nous montrent qu'il y a des territoires qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui. Je pense bien sûr aux zones Natura 2000, hein, qui sont des zones qu'on tente de préserver dans beaucoup d'acceptation des parcs. Et puis, en même temps, il y a des gens qui y habitent, qui doivent se déplacer. Donc, il faut pouvoir gérer la mobilité, gérer le rapport à la nature. Donc, ceci pour dire que, tout doucement, on doit essayer de comprendre comment, quand on parle de technologie, il faut partir d'un concept qui s'est émancipé et comment ce concept aujourd'hui nous renvoie à une image de la technologie. Alors je vais faire un petit détour, m'excuserai, hein, par la vision de l'économiste, et peut-être d'un économiste, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur le développement durable, la manière de mettre en place. Pas d'accord parce que beaucoup d'économistes font l'économie de l'environnement. Et on dirait que nous, on se bat un petit peu contre ça, parce que dès qu'on fait l'économie de l'environnement, on parle de marché, on parle de taxes.
on a des outils. L'économiste est un technicien et il a une boîte à outils et il va l'utiliser pour rentrer dans l'environnement. Alors que dès qu'on parle de développement durable, c'est plus délicat parce que dans les sciences sociales, on doit accepter l'idée que le rapport au savoir n'est plus le même. Il est plus fondé empiriquement, scientifiquement, donc il faut être capable de faire un pas de côté, de voir comment les choses se mettent en place. Donc moi, ce que je vous propose ici, c'est de voir comment la technologie est rentrée dans le développement durable et pourquoi aujourd'hui je vais identifier deux écoles avec des projets. Je vais vous montrer que c'est pratique, hein, c'est pas du tout théorique. Avec des projets derrière, et puis malheureusement peut-être des conceptions un peu trop idéales. On va idéaliser un petit peu la technologie, et des fois on voudrait montrer que ça ne marche pas. Alors, dans le tableau que je vous ai présenté ici, c'est une chronologie, hein, c'est à quel moment, pourquoi on parle de développement durable. Au départ c'était l'éco-développement, hein, et on devait faire de l'éco-développement, puis brutalement on a fait du développement durable. Alors, je vais pas revenir sur le pourquoi, mais surtout sur qu'est-ce qui s'est passé derrière. C'est qu'entre les deux, on a toujours eu un rapport à la technologie. Je vais prendre deux exemples relativement bien connus. Hein. Rachel Carson, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Silent Spring, c'est un boom planétaire à l'époque, hein, c'est le premier ouvrage sur le DTT. Interdit dans beaucoup de pays, toujours aux USA en fonctionnement. C'est quelqu'un qui va se battre, hein, c'était une scientifique, qui va se battre humainement pour remettre en cause ceci. Elle y arrivera, mais avec beaucoup de difficultés. C'est elle qui va créer la première agence environnementale aux USA. Et qu'est-ce qui se passait ici? On mettait en avant la question de la conséquence de la technologie, alors qu'elle devait servir à être plus productive. DTT, c'était bien sûr un moyen pour être plus productif et permettre, bien sûr, d'avoir des biens alimentaires en plus grande quantité. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on n'a jamais été consulté en tant qu'habitant, en tant que citoyen, sur les conséquences du produit, mais uniquement sur à quoi devait servir ce produit, les biens alimentaires. Deuxième exemple, toujours par rapport à la technologie, Barry Commoner, tous ceux qui travaillent en écologie, c'est un des papes, des pères de l'écologie, combat bien sûr dans le nucléaire. Barry Commoner a fait la première étude, qui était extrêmement intéressante, sur la présence de strontium-90, donc... nucléaire, hein, dans les dents de lait des enfants. Il avait repéré effectivement qu'un grand nombre d'enfants arrivaient avec la présence de strontium et il a milité pendant très longtemps pour montrer que la technologie nucléaire, qui devait servir bien sûr de guerre mais également d'énergie, avait des conséquences extrêmement fortes sur la vie des citoyens et sur la santé. Son ouvrage qui s'appelle The Closing Circle, autrement dit l'encerclement, a joué un rôle très important en écologie, puisqu'à l'époque, on travaillait sur la biologie moléculaire, autrement dit sur le microcosme, et lui fait rentrer l'écosystème. On découvre qu'il y a une complexité dans l'écosystème, que la technologie doit intégrer cette complexité. Alors à partir de là, on a eu en fait deux visions de la technologie, deux visions d'acceptabilité. Et c'est pour ça que ça me renvoie un petit peu à ce que vous évoquiez ce matin et ce qu'on avait commencé à évoquer cet après-midi. Il y a une première vision, c'est une vision purement technique et industrielle. Pas s'en cacher, l'industrie est capable d'anticiper le développement durable et l'a tellement bien anticipé qu'elle a les solutions pour apporter effectivement les moyens de les régler. Et puis en face, je dirais qu'il y a une logique très contestataire, autrement dit une réflexion qui est plutôt philosophique, plutôt politicienne, voire d'économistes qui se disent oui, mais cette technologie-là, on ne l'a jamais interrogée sur l'acceptabilité. Autrement dit, ce n'est pas la question qu'on pose aux économistes. Ce qu'on veut savoir, c'est comment produire plus, comment croître davantage, et quelle est la meilleure combinaison technique pour pouvoir le faire. Donc il n'y a jamais eu de question sur est-ce qu'une technologie est plus acceptable qu'une autre. En même temps, ces deux visions un petit peu paradoxales de la technologie, elles se rapprochent sur plusieurs choses. C'est que tout doucement, on voit que l'écologie devient culture commune. Ça signifie que dans la vision de la technologie, on admet que l'écologie peut peut-être avoir un penchant pour comprendre ces choses. Alors il y a trois lois qui sont à chaque fois redites et reprises. Ces trois lois, bien sûr, on les connaît plus ou moins, c'est l'interdépendance. Toutes les parties sont complexes, il n'y a pas de simplification, on ne peut pas simplifier les choses. Les modèles ont des limites, on ne peut pas les transposer comme ça. Deuxième loi, la matière circule. Vous voyez que là, je fais référence à l'entropie. On sait très bien que l'énergie fonctionne, mais qu'elle rejette de la chaleur, et que si on n'est pas capable, sur des projets très pointu, d'intégrer l'entropie, on participera au réchauffement de la planète. Et puis, troisième loi, la nature en sait plus long, ça signifie que faisons attention à nos modèles mécanistes, où on pense qu'on peut toujours revenir en arrière, tout est réversible. Non. tout est irréversible dans beaucoup de cas, et le choix qu'on fait aujourd'hui en technologie aura forcément des conséquences pour la société plus tard. Alors si on est d'accord sur cette vision un petit peu idéale, hein, je dirais, de l'écologie, en même temps les stratégies sont complètement différentes. C'est là où je dois insister. Si on prend l'écologie industrielle, il y a une foi vraiment dans la technique et la technologie. On en dit, on peut tout attendre de la technologie parce qu'elle est pensée par l'industriel, par un ingénieur qui, dans la technique, est capable de réfléchir et en même temps, il est capable de proposer des systèmes comptables, de flux. On n'est plus sur des stocks, on rentre des flux, on peut tout comptabiliser. Il y a beaucoup d'analogies avec l'écologie, on parle de métabolisme industriel, on parle d'écosystème, on parle de biocénose, autrement dit, il y a un langage, voyez, ambivalent, hein. L'ingénieur est capable de se fondre un petit peu dans la vision des sciences de la vie, de montrer que sa machine, elle permet de mimer la nature. On pourrait me dire qu'il n'y a plus besoin de nature, hein, il peut tout mimer, il peut la remplacer, on peut être artificiel. Si on... Et puis de l'autre côté, on a une forme d'écologie très politisante où on dit, mais attention, cette technique, socialement, elle a des répercussions. Parce qu'elle est pensée par des acteurs qui ont un poids politique, un poids économique, qui peuvent avoir effectivement une vision particulière de la technologie. Et là, on préconise plutôt, avec des craintes, de réduire nos consommations de technologie ou de biens technologiques, voire de revoir nos besoins. Hein, pourquoi est-on si tributaire de la technologie, hein, pourquoi est-on si dépendant aujourd'hui? Et pourquoi pas, effectivement, alors là, j'aurais une vision un peu en rupture, hein, penser la décroissance, autrement dit, est-ce qu'il faut absolument une technologie qui passe par un marché, qui soit sanctionnée par le marché et qui devienne l'acteur de référence, ou on va dire la technique de référence. Alors ceci pour dire que si on prend les deux oppositions, parce que c'est quand même deux modèles qui s'opposent, hein, de manière très frontale, on peut essayer de voir comment la technologie pose des questions d'acceptabilité, en même temps des questions de société. Je vais prendre le premier modèle, je vais prendre quelques exemples assez pointu pour vous montrer sur quoi ça peut déboucher. Si on prend l'écologie industrielle, il y a quatre engagements relativement forts, alors avec bien sûr, encore une fois, hein, des idéotypes. Le premier idéal, c'est quoi? Valoriser un déchet. Hein, la grande panique aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire d'un bad un good. Hein, vous savez que les déchets, c'est du mauvais. Il faut les rendre bien. Donc, comment on fait qu'un bad devient bien, devient une ressource naturelle? Et là, on a inventé une forme d'innovation en termes d'organisation, c'est Kallenborg. Kallenborg est la référence aujourd'hui, hein, je vous montrerai, c'est pratiquement, il y a un institut qui vous fait visiter, hein, c'est un village industriel, comme on pourrait dire, et ceci est basé sur un flux d'échange de déchets, le déchet des uns fait les ressources des autres. Et ça va très loin parce que aujourd'hui on est en train d'essaimer ce modèle et on tente de voir si on peut effectivement le mettre partout où ça pourrait avoir du sens. Alors on verra que c'est un idéal, hein, ça pose beaucoup de soucis, mais en même temps on le copie. Dunkerque est un bon exemple, près de Marseille également, on a créé des symbioses, il y en a en Suède, il y en a au Canada, autrement dit, il y a une volonté aujourd'hui d'avoir un idéal type en termes d'innovation. Alors, cet idéal type, si on regarde bien, c'est quoi une symbiose? C'est embêtant pour un économiste parce que là, on parle de coopération. C'est vrai que les économistes parlent de concurrence, toujours de concurrence. Quand on leur dit qu'il faut coopérer, ils vous disent, oulala, coopérer, c'est des relations humaines, il faut communiquer, bon... On peut essayer, mais ce n'est pas forcément l'outil de référence. On aime bien la concurrence, on aime bien voyez, la compétitivité, la productivité. Pour nous, c'est quelque chose d'important, qui est mesurable, qui est palpable, et en plus très objectif. Hein, ce n'est pas du subjectif. Là, il faut coopérer, il faut collaborer. Et on voit que l'idée première de la symbiose, c'est quoi? C'est de partir d'un déchet, d'en faire une ressource naturelle qui va servir à une autre industrie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces symbioses sont bâties sur les profits économiques. Alors, un économiste, c'est bien, vous lui dites qu'il y a des profits économiques. Et il arrive, il est présent. Donc il se dit, tiens, il n'y a pas de concurrence, mais il y a des profits. Comment c'est possible? Comment on peut avoir un système qui marche bien sans concurrence? Et après, on vous dit que c'est un modèle libéral. Encore mieux, vous voyez, libéralisme plus profit sans concurrence. Là, on se dit, bah, tiens, la coopération a du bon. Hein, on peut chercher ce modèle. Et finalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, mais les gens sont interdépendants, mais également indépendants. Autrement dit, on collabore, mais on reste indépendant. Vous voyez qu'on est encore dans une logique individualiste, mais tout en coopérant. Donc c'est vraiment une particularité. Alors particularité parce que c'est au Danemark, petit pays, hein, 6 millions d'habitants. Vous voyez, on ne va pas copier quelque chose qui marche au Danemark, mais on pourrait s'en inspirer. Et puis, ensemble d'accords commerciaux, hein, qui sont importants, hein, 20 accords aujourd'hui, pratiquement une trentaine, parce qu'on multiplie ces accords, qui porte à la fois sur l'eau usée, qui porte sur les déchets matériaux, qui porte sur la chaleur. Et vous voyez que je vous ai mis ici, il y a six grosses entreprises qui sont toutes d'activités différentes. Il n'y a pas de concurrence. On ne pourrait pas évoquer la concurrence, ça ne marcherait pas. Donc ça marche uniquement par des firmes qui ont une activité différente. Et puis entre les firmes, il y a une firme publique, la mairie de Kalundborg. J'ai beaucoup insisté sur Kalundborg parce que ça montre bien comment on peut penser l'innovation au niveau d'une organisation à partir du public. Ce qu'on ne sait pas faire en France, malheureusement. Alors, juste pour rappeler, hein, Kalundborg, c'est la pointe ouest du Danemark, hein, c'est tout petit, mais voilà, on la retrouve. Et Kalundborg, c'est ça. Par un petit schéma, c'est basé sur un échange entre une centrale électrique, entre une raffinerie de pétrole, entre une firme qui fait des produits pharmaceutiques, entre une ville qui fait venir de l'eau d'un lac. Et vous voyez que l'idée, c'est qu'à chaque fois, on invente une activité supplémentaire par un échange de déchets. Et pourquoi il y a collaboration? C'est qu'en fait, dans l'innovation, chaque partenaire pense l'innovation pour l'autre, non pas pour lui-même. Alors ça, c'est intéressant parce que ça signifie qu'on n'a pas forcément la technologie optimale, mais celle qui correspond à l'ensemble, donc de la coopération. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On chiffre les flux qui viennent de Kalundborg. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait ça. Vous avez en noir les dates. Alors, je n'ai pas dit, mais ce sont les pipelines qui relient chaque entreprise. Donc, il faut un système de proximité entre les firmes. Donc, ce n'est pas esthétique, hein, les pipelines, vous imaginez, il y en a plein partout. On ne va pas passer ses vacances à Kalundborg. Mais en même temps, ça donne l'idée de ce qu'on pourrait représenter comme flux de coopération. Vous avez les dates. Vous voyez que là où je vais insister, c'est le premier pipeline, c'est celui qui va définir justement la coopération, c'est Kalundborg. Autrement dit, c'est la ville qui a construit l'accès à l'eau potable, à l'eau en général. Donc ça signifie que les acteurs qui sont venus par la suite, qui ont eu besoin d'eau, n'avaient pas le choix, il fallait passer par la ville. Et comme c'est un acteur public, bah, la ville a pu justement négocier, gérer l'ensemble des échanges. Donc ça signifie qu'on a ici une maîtrise en termes de gouvernance qui vient du public, qui est relativement intéressante. Il y a un deuxième intérêt, c'est que n'oubliez pas que si on fait venir de l'eau pour la ville, c'est pour l'alimentation, autrement dit pour boire. Ce qui signifie que la centrale électrique que Novozym a de l'eau potable de très bonne qualité pour l'industrie. Vous voyez, c'est le paradoxe. Quand vous visitez les firmes industrielles, on vous ouvre un robinet, vous prenez un verre et vous buvez. Alors que l'eau circule au niveau industriel dans pratiquement tous les pipelines. Donc la qualité d'eau dans le système est une eau pure qu'on peut boire à tout moment, sauf bien sûr celle qui part bien sûr dans le retraitement parce qu'elle a tourné dans le cycle. Donc en fait, on a une gouvernance qui vient du public. Et c'est pour ça que je parle d'innovation organisationnelle. Hein. On a pensé le public pour penser la coopération. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et juste pour donner un ordre d'idée, hein, la ville de Kalundborg, c'est 40 000 habitants. D'accord ? Si on fait la somme, parce que l'intérêt, c'est de voir comment on capitalise en termes de dynamisme sur la zone du territoire. Jiproc, vous voyez, c'est 165 employés. Jiproc fait des panneaux de plâtre. À l'époque, Jiproc achetait son gypse pour faire des panneaux de plâtre en gypse naturel. Ça coûtait pratiquement, on va dire, entre 100 et 150 dollars le mètre carré. Jiproc a été voir l'un de ses collaborateurs à côté, hein, qui faisait une forme de cendre un petit peu synthétique. Ils ont travaillé ensemble, ils ont fait un gypse synthétique qui vaut entre 40 et 50 dollars le mètre carré, donc on divisait par 3. Ceci par collaboration, autrement dit, on a réfléchi ensemble sur comment on pouvait modifier une activité en modifiant la ressource naturelle de base. Asnae, centrale électrique, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas un paradis, hein, c'est vraiment l'univers industriel tel qu'on l'entend. Vous allez voir, il y a un peu de verdure, mais bon, on comprend un petit peu l'idée hein, derrière. Ça, c'est la raffinerie, 350 habitants. Là, c'est la ville, 49 000 habitants. Et puis, Novo Nordisk, 3500 employés. Autrement dit, vous voyez que ville de 49 000 habitants, et si on faisait le total, il y a à peu près entre 6 et 7 000 emplois drainés par Kalundborg. Ce qui fait que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui a du poids et qui est mis en avant. Alors, puisqu'on parle d'organisation de l'acceptabilité, il y a eu deux questions qui se sont posées. C'est pourquoi Kalundborg? Pourquoi ça a émergé brutalement? Pourquoi, effectivement, ça a eu un tel retentissement? Quand vous posez la question aux personnes, aux chefs d'entreprise hein, qui ont été dans Kalundborg, premier élément, c'est le potentiel. Dans l'innovation, ce qui compte, c'est le potentiel. Savoir qu'est-ce qu'on pourrait ou qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et puis surtout, mais ça c'est propre au Danemark, hein, ce sont des grosses entreprises, pas des petites entreprises. Autrement dit, elles ont un poids important, elles peuvent négocier entre elles sans qu'il y ait de relation de pouvoir. Et ça, c'est important. chacun avait un poids économique fort. Pour un exemple, hein, Asnæs, c'est la plus grosse centrale électrique du Danemark. Donc forcément, à partir de là, on a un point important. Distance très faible, incitation économique parce que, bien sûr, le déchet devient une ressource, c'est intéressant. Pas de barrière légale. On le verra au Danemark, il y a également un enjeu derrière économique et légal. Et puis surtout, une très bonne communication. Tous les responsables me disent, la technologie, oui, mais on savait communiquer. On savait communiquer, il y avait des choix de communication mis en avant. Et on voit que le rôle de la communication a été un élément important dans la technologie. Donc quand on parle d'acceptabilité, on voit que communiquer devient le premier maître d'ordre dans la technologie. Alors, rôle de la communication, pourquoi ? Les groupes sont grands, pas de concurrence, et puis surtout, hein, ils se connaissaient tous, puisqu'ils se rencontraient pratiquement tous les jours, toutes les semaines, au Rotary Club. Autrement dit, il y avait un lieu, une institution où on se voyait, où on discutait. Et au Danemark, il n'y a pas de contrat écrit, ce sont des conventions, très souvent orales. Ça signifie que ça fonctionne. Tant que ça fonctionne, s'il y a quelque chose qui grippe le mécanisme, on crée une règle, on crée un contrat. Donc il n'y a pas un formalisme dans la contractualisation. Un management très ouvert et puis un grand nombre de partenaires qui ont joué un rôle très important. Alors, il y a une chose que je n'ai pas évoquée, mais quand on parle d'innovation, on a cherché à mettre en avant une mémoire vivante de Kallenborg pour dire, bah tiens, vu qu'on a créé quelque chose que tout le monde copie, parce qu'au départ, quand vous leur dites, mais c'est idéal chez vous, ils disent, bah oui, mais non, c'était spontané. On n'a jamais voulu créer un idéal, c'est vous qui nous dites que notre modèle est idéal. Donc les gens vous disent, mais au départ, on n'a jamais vu ce projet, on a vu juste un déchet qu'on a échangé, qu'on a commercé, et l'innovation était gérée par ce déchet. Donc pour eux, c'était un non-projet. C'était de dire, bah non, c'était rentable. Donc on s'est lancé. Deuxième chose, la technologie s'est imprégnée d'une durée relativement forte, 30 ans. 30 ans pour que ce modèle prenne pleine conscience dans l'esprit de chacun. Donc ça signifie que toutes les personnes ont été à l'origine de l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles ne tombent pas brutalement sur des personnes. C'est une communauté de personnes qui a tenté de comprendre comment gérer cette forme d'innovation. Des projets lancés de manière indépendante, 30 contrats, 30 accords commerciaux sur la chaleur, sur l'eau, sur l'énergie sous sa forme. Et puis surtout, on l'a dit, organisme vivant qui tend aujourd'hui à avoir une logique un peu intéressante pour comprendre l'histoire. Alors, au final, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Kallenborg fait sortir 5 éléments clés. Collaboration très forte, activité différente, importance du marché. Vous voyez, pour une fois, ce qu'on met toujours au banc, on va dire au rebut, en disant que le marché pose des problèmes, bah là, on met en avant le marché. Grâce au marché, la technologie devient pertinente, le modèle devient pertinent. La proximité, c'est pour ça qu'on est bien sur l'écologie industrielle territoriale, on est sur le territoire. Et là, pour ces acteurs, c'est important parce qu'on ne délocalise pas. L'intérêt du développement durable de cette technologie, c'est qu'elles sont sur un territoire qu'on peut circonscrire. Alors bien sûr, le pipeline, c'est pas esthétique, mais ça délimite effectivement l'infrastructure. On veut travailler ensemble, forte complexité, beaucoup de valeurs communes. Il y avait une volonté que la technique et la technologie soient pour l'ensemble des personnes. Et puis, bien sûr, une bonne communication. Alors, on voit bien sûr que la symbiose, je parle le facteur clé, elle a quand même reçu l'appui d'autorités locales pour bien montrer que Kallenborg, la ville, a joué un rôle très pondérant et que, on va dire, les instances locales également ont appuyé le projet. Symbiose Institute est une équipe multidisciplinaire. C'était pratiquement la première fois que je voyais une équipe de 20 ans, avec des philosophes, des sociologues, des économistes, des ingénieurs, travailler ensemble, et qui montraient bien que le projet était évalué. Évaluation sur le rejet de gaz à effet de serre, évaluation sur l'empreinte carbone, évaluation sur les rejets des cheminées. Donc il y avait un modèle tentaculaire d'évaluation sur les flux, et pas les stocks, uniquement les flux. Et puis on a vu effectivement l'idée que ce projet pouvait être planifié. Autrement dit, est-ce qu'on peut délocaliser Kallenborg et en faire une forme d'innovation uniquement en termes d'organisation. Vous voyez comment développer cet implant à l'extérieur. Alors, je ne dirais pas le biais, mais la limite, on voit bien, c'est le contexte. On voit bien que l'aspect structurel, cognitif, politique, joue un rôle très important. Et je rappellerai juste trois choses très importantes au Danemark. La première, c'est qu'il y a beaucoup de relations informelles. Tout n'est pas formalisé. Le réseau danois fonctionne beaucoup par des conventions collectives. Donc ça facilite, c'est pas rigide en termes de contrat. Et puis surtout, le Danemark très très tôt a mis en place une législation déchets qui a eu un rôle catalyseur parce que on pourrait croire que mettre en place une taxe, c'est l'éco-taxe, c'est le débat qu'on a aujourd'hui chez nous, Danemark est très pragmatique, puisque lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place l'écotaxe en réduisant les charges salariales. On dit, Danemark a les charges salariales les plus basses d'Europe, 3%. Imaginez, hein, c'est enviable pour nous. 3% sur les charges sociales, mais une écotaxe extrêmement élevée, bien sûr, mais on joue sur la double combinaison. Et donc, une réglementation qui est portée par un gouvernement, mais qui est flexible, hein, puisqu'on a un modèle. Vous savez que les conventions de travail au Danemark, il y a un syndicat des ouvriers et un syndicat patronat. C'est plus facile pour négocier. On n'a pas la difficulté qu'on a nous chez nous. Donc, au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce modèle, en termes d'organisation, devient acceptable. Le problème, c'est comment il est transposable. C'est ça la difficulté, c'est que tout ce qui peut bien marcher est reconverti en des systèmes qui peuvent devenir très différents les uns des autres. Alors, je vous ai évoqué quelques exemples. Hein, Guitang en Chine, sur la pâte à papier, hein, la canne à sucre. La symbiose de Queen Anna, qui est sur les mines. Vous avez les écotones, qu'on voit aujourd'hui au Japon. Hein, c'est un grand débat sur les vies durables. Parce que ce que j'évoque sur l'écologie industrielle... On est bien qu'il y a bien sûr une sous-dimension, la ville durable, les écophiles sont dans une logique éco-industrie. Et on voit effectivement apparaître le biogaz, hein, les agrocarburants en Suède, ou également la pâte à papier en Finlande. Donc en fait, ce modèle est en train de créer des petits, des émules, et en même temps, ça nous impose de revenir sur qu'est-ce qu'on fait de ces modèles, est-ce que c'est vraiment des implants tels qu'on les entendait? 8 ans, on va le voir, c'est pas la coopération, c'est un holding qui s'est créé. Et là, on a plutôt des relations de donneurs d'ordre et pas de collaboration. Donc l'innovation, elle, apparaît comme une technique qu'on met en place. On l'accepte ou on l'accepte pas, mais on est obligé d'en tenir compte. Donc en fait, on voit que tout doucement, la notion de technologie devient propre aux organisations qu'elles sont capables, au-delà du procédé, de collaborer, de coopérer. Donc on a un modèle de coopération. Deuxième chose, bouclage des flux, bouclage des cycles. Alors vous voyez que là, c'est le débat sur l'éco-efficience, l'éco-technologie. Alors, vous savez que sur les échos, puisque c'est un peu la mode, hein, on fait de l'écho aujourd'hui, éco-technologie, éco-ville. Les éco-technologies, c'est de vous dire qu'on peut raisonner en termes intégrés, autrement dit, je pense la technique en fonction du déchet qui va être réalisé, donc je fais moins de déchets. Je peux avoir une technologie qui intègre le déchet à la fin, pour me dire comment je valorise. Comme je peux avoir une technique d'éco-efficience sur un nouveau matériau que je tente de faire rentrer dans ma technologie. Donc là, il y a tout un débat, et l'Europe, bien sûr, a poussé hein, derrière, puisqu'on a vu apparaître des livres blancs, un livre vert également, qui mettent en avant l'éco-efficience et l'éco-technologie. La dématérialisation, là, c'est un autre problème, c'est-à-dire, est-ce que la technologie répond à tout? Est-ce qu'elle est capable de changer de modèle? Et là, on voit apparaître effectivement un modèle qu'on avait déjà connu il y a quelques temps, mais c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Vous savez qu'une technologie répond sur un droit de propriété, généralement. On dépose un brevet qui nous protège. Sauf que si on change la vision d'une technologie pour en faire un droit d'usage, il n'y a plus de droit de propriété. Autrement dit, on n'a plus besoin d'être propriétaire de biens pour pouvoir l'utiliser. Et là, il y a tout un débat sur l'acceptabilité. Autrement dit, est-ce que c'est plus acceptable d'acheter un bien quand on sait que ce bien répond à un droit d'usage, que de l'acheter lorsqu'on sait que c'est un droit de propriété? Je vais prendre un exemple, parce que c'est compliqué. Hein. Tout le monde va venir vous l'expliquer. Vous achetez des pneus chez Michelin, si vous les achetez et que vous les consommez jusqu'au bout, c'est un droit de propriété. Vous avez acheté un pneu, vous le consommez jusqu'au bout et vous le paierez à Michelin en tant que pneu. Si maintenant Michelin vous vend un pneu pour un nombre de kilomètres que vous utilisez, autrement dit, vous dites, moi, je fais 10 000 km par an, donc je vais payer uniquement 10 000 km et pas 20 000, 30 000. Et bien là, on n'est plus propriétaire du pneu, on est juste usager du pneu. Ça signifie qu'au bout des 5 ou 10 000 km, où je rends le pneu à Michelin, qui va le retravailler, maintenant il fait un pneu qu'il peut retravailler, et qu'il pourra revendre à d'autres en droit d'usage. Donc là, on voit l'idée qu'on est en train de modifier la perception même de la relation de la propriété. La technologie modifie l'acceptabilité. Vous voyez, si je pousse mon raisonnement, moi, consommateur qui admet le développement durable, je vais être prêt à soutenir Michelin parce que j'estime que son modèle est un droit d'usage et pas un droit de propriété. Et que, en fonction de ce que je vais utiliser, ça pourra me servir. Enfin, dernier élément, les pratiques de décarbonisation. Là, je ne vais pas y revenir, mais effectivement, c'est le low carbone que l'industrie tente d'intégrer dans cette configuration. Alors, vous voyez que je suis parti d'une vision un petit peu d'ingénieur pour comprendre, mais qu'est-ce que ça pourrait signifier si on prenait le contre-pied? Et là, très rapidement, ça signifie quoi? On voit apparaître des critiques très fortes sur technique innovation. Alors, ces critiques, elles sont évidentes. Hein. C'est de dire, mais attention, la machine, c'est une forme d'aliénation. Et si vous regardez bien, quand on parle d'acceptabilité, c'est toujours par rapport à l'expert qui vous dira que, oui, mais si votre technologie a un problème, c'est quoi la solution ? Ben, une autre technologie. Donc finalement, je tourne dans une vision très circulaire où tout ce qui revient, c'est la technologie. Deuxième élément, c'est de se dire, mais admettons effectivement que cette technologie bute sur une contrainte, l'environnement, les ressources naturelles. Bah, le marché m'explique bien que ce qui coûte cher sera remplacé par ce qui coûte moins cher. D'accord ? Donc forcément, l'économiste vous dira, mais c'est pas grave, hein, si il n'y a plus de pétrole, si la technologie coûte réellement cher, on trouvera toujours quelque chose. Et comme on trouvera toujours quelque chose, bah, on a besoin de technologie. Elle est acceptable parce qu'elle répond à une question, et elle répond à une question de marché. Enfin, troisième élément, on voit bien, c'est la question des effets rebonds. On voit sur l'histoire hein, que la technologie a bien sûr une limite dans l'acceptabilité, c'est qu'en fait, tous les gains qu'on réalise disparaissent à cause de la consommation. Autrement dit, malheureusement, tous les efforts qu'on fait, ce qu'on continue à faire, je pense par rapport aux gaz à effet de serre ou même aux bâtiments low carbone, c'est qu'en fait, tous les efforts qu'on fera aujourd'hui vont entraîner des fois des comportements de consommation qui ne font qu'accroître la consommation et réduire les gains potentiels. Donc on voit que cette première critique est relativement forte et elle pose carrément la question sociale. Hein. Que fait-on derrière l'innovation ? Deuxième critique, bah là c'est en fait un constat, hein, le constat qu'on fait sur l'INPIC. Pendant longtemps on pensait que ça serait l'économie du futur et puis on s'aperçoit qu'elle est énergivore. Les box hein, qui fonctionnent pratiquement à tout va tous les jours, le système qui a besoin d'énergie en continu, bah, nous fait comprendre que dématérialiser hein, pose des problèmes effectivement importants, à la fois sur l'environnement, je pense aux pays du Sud, hein, qui sont maintenant aujourd'hui les grands récolteurs de déchets informatiques, hein, qui partent par paquebots entiers là-bas et démantelés sur place, ou alors également sur les conteneurs qui intègrent effectivement les formes d'énergie, puisque forcément, si c'est énergivore, bah, il faut réfléchir sur comment modifier ce paramètre. Et enfin, troisième élément, les pratiques d'éco-efficience. Là, on s'aperçoit que si le développement durable est un nouveau modèle, parce que moi, c'est le parti pris que je voulais donner, c'est-à-dire que ce n'est pas un concept, c'est un paradigme. Autrement dit, c'est comme le capitalisme, c'est un modèle, donc il faut en changer. Bah, si on dit qu'il faut en changer, le risque, bah, c'est qu'on reprenne les mêmes concepts qu'au départ. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui font de l'éco-efficience, les gens qui font de l'éco, vont adopter les mêmes modèles de rentabilité que les anciens. Ça signifie que, alors qu'on pourrait dire qu'une technologie devient intéressante pour le développement durable, mais on lui donne allez, quelques années pour être plus ou moins rentable, bah, aujourd'hui, on lui demande tout de suite d'être rentable. Donc le modèle ne change pas, la rentabilité s'exerce toujours, même dans ce concept-là. Ce qui fait dire à certains qu'on est plutôt sur une forme de verdissement d'économie, on n'a pas vraiment basculé, on n'a pas changé de modèle malheureusement, et que bah, on attendait quelque chose d'autre que le capitalisme, et finalement la technologie est acceptable du point de vue du capitalisme. Voilà, je m'arrêterai. Merci.